Aujourd'hui, pour ce dernier cours, il nous reste à voir deux livres, le livre d'Esdras Néhémie d'une part et le livre des Chroniques d'autre part. Alors je dis deux livres, en fait, vous voyez, ça fait quatre dans nos Bibles. En réalité, il faut probablement les considérer comme deux livres. Alors on commence avec Esdras Néhémie. Esdras Néhémie nous relate le retour des Judéens après l'exil. Donc on est au 6e siècle avant notre ère. Le peuple a été exilé à Babylone suite à l'invasion de Nabucodonosor. Et une fois que les Perses prennent le pouvoir, hein, c'est le roi Cyrus qui prend le pouvoir à Babylone, eh bien, il va autoriser les Judéens à retourner dans leur pays, sur leur terre. Alors, un petit mot d'histoire, c'est effectivement la politique des Perses de laisser une certaine liberté, une certaine latitude aux différentes populations de leur empire. En fait, ils ont compris qu'avec un empire aussi grand que le leur, hein, il faut imaginer que l'empire perse, c'est quand même... l'empire perse s'étend au-delà de l'Iran jusqu'à la vallée de l'Indus, pratiquement jusqu'au pied de l'Himalaya. Hein, c'est énorme. Et puis, à l'ouest... Ils vont jusqu'en Anatolie, donc la Turquie actuelle, et au sud, jusqu'en Égypte. Donc imaginez la taille d'un tel empire avec les moyens de communication de l'époque. Le simple fait même d'écrire une lettre, de tenir au courant, etc., ça peut mettre des semaines et des semaines à voyager. Donc on ne peut pas être aux deux extrémités de l'empire et d'être sur tous les fronts. Donc pour pouvoir gérer un empire aussi vaste, il faut que les choses se passent bien et laisser les gens se gérer eux-mêmes. Donc en fait... Les Perses, d'une part, ne vont pas imposer leur langue comme langue d'administration de l'Empire. Ils auraient pu dire, voilà, c'est nous qui sommes au pouvoir, donc on va imposer le Perse. Pas du tout. Ils vont utiliser l'araméen, qui est la langue qui est la plus connue, disons, en Mésopotamie. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'effectivement, en épigraphie, on va retrouver sur les sites archéologiques des documents écrits en araméen. C'est la correspondance entre le gouverneur et on va trouver des documents en araméen, du coup, dans tous ces coins et toutes ces régions un peu improbables. C'est-à-dire, vous allez à Éléphantine, donc tout au sud de l'Égypte, Aswan, si vous allez à Aswan, vous allez tout au sud, on est vraiment tout au sud de l'Égypte, et bien là, vous avez des papyris araméens. Et si vous allez en Ouzbékistan, vous avez également des papyrus araméens. C'est impressionnant de voir l'emploi de cette langue partout. Et de la même manière, en Turquie, vous allez au sud de la Turquie, vous avez des documents en araméen. Donc, de ce point de vue-là, ils ne vont pas chercher à imposer leur culture, leur civilisation, leur langue. Et ils vont établir des gouverneurs sur place. Et ce qu'on voit justement, c'est que le gouverneur local en Judée, ce sera un Judéen. Plutôt que d'imposer un Perse, on va laisser quelqu'un de la population locale en disant « gérez-vous, vous avez une certaine autonomie, l'essentiel étant que les choses se passent plutôt bien ». Et donc dans le cadre de cette organisation de l'Empire perse, les Judéens sont autorisés à rentrer en Judée, à rebâtir leur temple, et on le verra avec le livre de Néhémie, à rebâtir les murailles de la ville. Alors, le livre d'Esdras s'intéresse, lui, pour schématiser, à la reconstruction du temple, et le livre de Néhémie va s'intéresser à la reconstruction des murailles. Bon, voilà, grosso modo. Si on regarde dans le détail... Le livre d'Esdras, on va trouver donc deux sections. La reconstruction du temple lui-même, donc ça, ce sont les six premiers chapitres. Vous avez 10 chapitres. Les six premiers chapitres sont consacrés à la reconstruction du temple. Donc ça, c'est fait. Et Esdras n'est pas là du tout. Donc toute la première moitié du livre d'Esdras, en fait, il n'y a pas Esdras. Et enfin, et c'est dans la deuxième partie du livre d'Esdras, les chapitres 7 à 10, qu'on va retrouver, que là, Esdras va faire son apparition en tant que prêtre et scribe. Donc le livre d'Esdras ne porte le nom d'Esdras que de façon secondaire, on va dire. Alors, les six premiers chapitres, qui sont donc consacrés à la reconstruction du temple, se déroulent en trois phases. Tout d'abord, on nous raconte le retour dans les deux premiers chapitres, on nous raconte le retour des Judéens à Jérusalem. On dresse le cadre chronologique. Tout d'abord, ouais, chapitre 1, verset 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, Yahvé éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui diffusa dans tout son royaume cette proclamation, même par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahvé, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Voilà. Donc, on présente le roi Cyrus comme étant choisi par Dieu pour reconstruire une maison à Jérusalem. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Alors, ce roi Cyrus, on en a déjà parlé, si vous regardez dans Isaïe chapitre 45, on l'avait déjà mentionné, puisqu'il est qualifié de Messie. Isaïe 45, dès les premiers versets, voilà. Isaïe 45, 1, « Voici ce que dit Yahvé à l'homme qui a reçu son onction, son Messie, littéralement, à Cyrus, que j'ai saisi par la main droite pour terrasser devant lui les nations, détacher la ceinture des rois, etc. » Autrement dit, on nous présente Cyrus comme ayant été choisi par Yahvé. La victoire de Cyrus sur les Babyloniens est perçue comme étant une victoire qui lui a été donnée par Yahvé. Et du coup, c'est pour cela que Cyrus est investi de cette mission de rebâtir le temple. Alors, est-ce que ça veut dire que Yahvé, que Cyrus est yahviste, c'est-à-dire que son dieu, c'est Yahvé? Pas nécessairement. Cyrus dit, regardez à la fin du verset 3, qu'il bâtisse la maison de Yahvé, le dieu d'Israël, c'est le dieu qui est à Jérusalem. Autrement dit, à Jérusalem, il y a un dieu, et ce dieu, c'est Yahvé. Et Cyrus n'a aucun problème pour reconnaître que le dieu de Jérusalem, c'est Yahvé. Et on ne veut pas fâcher Yahvé, donc on va lui construire un temple. Mais de la même manière, il pourrait construire d'autres temples à d'autres dieux, dans d'autres villes, dans son empire. C'est quelqu'un qui veut la paix des ménages, comme on dit. Vous voyez, je vous dis, c'est les Perses, pour ça, on se côté, on veut fâcher personne, on veut que tout le monde soit content, on veut que tout se passe bien dans l'ensemble de l'Empire perse. Donc, on n'est pas dans un cadre monothéiste du tout. Hein. On est simplement dans un cadre où on va reconnaître, c'est la monolâtrie, je vous disais, on a déjà parlé, l'idée de vénérer un seul dieu. Les peuples ont leur dieu et on accepte qu'un peuple vénère un dieu en particulier. On accepte que les Judéens vénèrent ce dieu qui s'appelle Yahvé et on va honorer ce dieu. Ça ne veut pas dire que Cyrus va faire de lui son dieu, sa divinité tutélaire. Au chapitre 2, on a donc un document qui nous donne la liste des Judéens qui reviennent à Jérusalem. Ah oui, alors la date quand même, Cyrus règne de 551 à 529, mais il prend le pouvoir à Babylone en 539 ou 538. Donc cet édit, ce qu'on appelle l'édit de Cyrus, cette autorisation de Cyrus, doit dater environ de 538, quelque chose comme ça. Alors, donc, deux personnages vont être sur le devant de la scène. Hein. Il y a bien sûr tous les personnages importants du peuple, mais tout particulièrement, on va avoir deux responsables, un responsable sacerdotal, un grand prêtre, si vous voulez, et un gouverneur. Donc, vous allez donc avoir deux personnes qui vont être sur le devant de la scène. Ce sera Zorobabel et Josué. Alors, on en a parlé déjà de ces personnages-là, notamment dans les 12 petits prophètes. Si vous regardez, il faut que je retrouve ça. Puisque je vous avais dit, les trois derniers prophètes se situent à l'époque post-exilique. Vous avez Agée et notamment Zacharie. Et vous voyez, on retrouve, si vous regardez Agée, chapitre 1, verset 1er, on nous dit « La parole de Yahvé parvint à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre. » Je vous ai dit, voyons, on voit bien ces deux pouvoirs qui sont bien distincts. Un pouvoir royal, en l'occurrence ici, c'est un gouverneur, il n'est pas roi, un pouvoir politique, Zorobabel, et d'autre part un pouvoir sacerdotal, c'est Josué. Alors notez que Josué, c'est le même prénom que Josué, fils de Noun, du livre du même nom, mais à l'époque post-exilique, on va commencer à trouver l'orthographe, au lieu d'écrire Yoshua en hébreu, on va commencer à trouver l'orthographe ou la vocalisation Yeshua en hébreu, donc une différence de vocalisation. Cette vocalisation va se généraliser, c'est-à-dire que le prénom Josué ne sera plus prononcé Yoshua, mais Yeshua. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la version grecque, au 3e siècle avant notre ère, la version grecque de la Bible ne traduit pas Yosu, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de che en grec, donc c'est forcément un S. Yosu, mais Yesu. Yesu, auquel on met un petit S à la fin, puisque c'est pour faire une finale grecque, ça fait Yesus. Et c'est le même prénom qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Yesus, c'est Jésus. Donc en fait, quand vous avez Jésus dans le Nouveau Testament, quand les lecteurs francophones de la Bible ont l'impression que c'est un nouveau prénom, alors qu'en fait, pas du tout. Jésus du Nouveau Testament, c'est Josué. Il s'appelle Josué, comme tout le monde, enfin pas comme tout le monde, mais disons, c'est un prénom très courant. Il y a plein de gens s'appellent Josué. Et en fait, Jésus s'appelle Josué aussi. Donc on aurait pu traduire le Nouveau Testament Josué partout. On a mis Jésus, donc on a bien distingué. Mais voilà, c'est une petite parenthèse linguistique. Donc ici, on va retrouver donc ces deux personnages qui vont, comme je disais, vont être sur devant la scène. Et Esdras n'y est pas encore. Dans les premiers chapitres du livre d'Esdras, il n'est pas encore question d'Esdras. Donc, le chapitre 3, donc les deux premiers chapitres posent le décor. Le chapitre 3 nous raconte le rétablissement du culte. Donc on arrive et on fait ce qu'il faut pour... Alors on rétablit l'autel. Pour rétablir le culte, il faut faire des sacrifices, donc il faut un autel. Donc c'est du mobilier, c'est pas énorme, il n'y a pas besoin de construire un temple immense, etc. Donc on commence à bâtir l'autel, ce qui permet de faire les sacrifices, de faire les célébrations... avec juste les fondations qu'il faut, hein, si vous voulez, voilà, il faut une plateforme, il faut construire juste le minimum, une plateforme pour pouvoir faire les sacrifices. Et donc les gens sont contents, on nous dit, verset 10, « Lorsque les bâtisseurs posèrent les fondations du temple de Yahvé, on mit en place les prêtres en costume avec les trompettes, les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin de louer Yahvé, d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils louaient et célébraient Yahvé par leur cœur, car il est bon, sa fidélité envers Israël est pour toujours. Et tout le peuple en sera une grande acclamation, etc. » Donc on voit, les gens sont joyeux, ils sont très contents. Mais, verset 12, on nous dit, « Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, autrement dit, qui connaissaient le temple de l'époque de Salomon, ce qu'on appelle le premier temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. » C'est-à-dire qu'en fait, il y a les vieillards, ceux qui se souviennent, qui ont connu la grande époque avec le grand temple qui a été détruit par Nabucodonosor, et ils voient que les gens rebâtissent, ils font ce qu'ils peuvent, hein, on rafistole, on met une plateforme, on commence à construire l'autel. Donc les jeunes sont contents parce qu'ils peuvent faire des sacrifices, mais les vieux, eux, sont nostalgiques. Alors c'est très drôle parce qu'on nous dit, verset 13, donc à la fin du verset 12, beaucoup d'autres en revanche faisaient retentir des acclamations de joie. Verset 13, le peuple ne pouvait distinguer les acclamations de joie d'avec les pleurs, car le peuple lançait une grande acclamation qui s'en allait très loin. Donc tout le monde crie, il y a des gens qui crient de joie et des gens qui crient de tristesse. C'est assez impressionnant de voir ce contraste entre ces deux réactions face à un même événement. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Si vous demandez à des gens qui ont été quelque part, vous leur dites « Alors comment ça s'est passé ?» Alors ça peut être soit, je sais pas, un repas de famille ou même un grand rassemblement. Moi, je sais pas, je me souviens, la première année où je suis arrivé ici, il y avait protestants en fait. Donc c'était toute la ville était envahie, etc. Il y a le truc au zénith. Enfin, c'était grandiose, c'était énorme. Et quand on demandait aux gens, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a des gens qui étaient hystériques en disant c'est fabuleux, on n'a jamais vu ça, etc. D'autres personnes disaient qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le bazar. Enfin, voilà. Donc c'est très, très, disons, toujours très subjectif la perception qu'on a d'un événement. Donc, chapitre 3, restauration du culte. Et ensuite, chapitre 4 à 6, on a des problèmes. Les chapitres 4 à 6 relatent les oppositions auxquelles les Judéens font face. Donc, c'est une section intéressante. Il y a des adversaires. Des premiers versets du chapitre 4, les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés bâtissaient un temple pour Yahvé, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et leur dire « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous cherchons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Assar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Alors, il faut retourner au deuxième livre des rois, chapitre 17, pour avoir l'explication. C'est la fin du royaume d'Israël, au chapitre 17, la destruction du royaume d'Israël, en disant 722 avant notre ère. 722, on a l'époque néo-assyrienne. Le royaume du Nord est pris, la ville de Samarie est détruite, la population est déportée et une autre population est mise à la place. C'est ce qu'on nous dit, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamad et de Sfarvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Verset 25. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas Yahvé. Et Yahvé envoya contre des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées, que tu as fait habiter dans les villes de Samarie, ne connaissent pas la règle du Dieu du pays. Il a envoyé contre elle des lions, etc. Verset 27, le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés, qu'il aille y habiter, qu'il leur enseigne la règle du Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre Yahvé. Donc l'idée... Donc on va inculquer à ces populations qu'on fait venir habiter en Samarie comment adorer proprement Yahvé, mais ça marche qu'à moitié, verset 33. Ainsi, ils craignaient Yahvé, mais ils servaient aussi leur propre Dieu. Jusqu'à ce jour, verset 34, ils agissent selon ses anciennes règles. Ils ne craignent pas Yahvé. Donc vous voyez, on n'est quand même pas... Le rédacteur de ce passage n'est pas... n'est pas très favorable à cette population de Samarie, qu'on va appeler les Samaritains, dont on dit que finalement ce ne sont pas vraiment des Israélites, parce que les Israélites ont été déportés, donc ce ne sont pas vraiment des Israélites. Ils ont d'autres coutumes, d'autres dieux. Alors évidemment, comme Yahvé n'est pas content, finalement on leur a expliqué comment servir Yahvé, mais ils le font qu'à moitié. Il y a une forme de syncrétisme. Donc c'était un passage qui était riche, on en avait parlé rapidement quand on avait fait le deuxième livre des Rois, en disant d'une part, on voit bien qu'on a cette notion de Dieu géographique. Hein. Il y a le Dieu de la Samarie, le Dieu d'Israël, c'est Yahvé, donc il faut vénérer Yahvé. En même temps, la population, elle a aussi son Dieu ethnique, en disant mais ils viennent d'ailleurs, donc ils ont leur Dieu, donc ils adorent à peu près les mêmes dieux. Et en fait, cette situation-là, on nous dit, ben voilà, c'est ça qui pose problème dans Esdras chapitre 4. Ces Samaritains, ils disent, voilà, nous aussi, parce que d'ailleurs... nous adorons aussi Yahvé, finalement. Nous aussi, nous adorons Yahvé. Donc, c'est normal que si vous bâtissez un sanctuaire à Yahvé, on y prenne part. Et donc, on renvoie en disant, en creux, qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des Israélites, on n'a rien à faire avec eux. Cette problématique, en fait, elle fait écho au problème de l'opposition entre les Samaritains et les Judéens. Les Samaritains avaient bien un temple sur le mont Garizim. Les fouilles archéologiques récentes de ces dernières décennies ont effectivement mis au jour ce qui semble bien être un temple dès l'époque perse. Donc il semble bien que dès l'époque perse, il y avait effectivement sur le mont Garizim un temple à Yahvé. Ce temple a continué à exister à l'époque hellénistique, etc. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller célébrer la Pâque sur le mont Garizim. Moi, je l'ai fait avec les Samaritains. Et les Samaritains disent « Nous sommes des Israélites, notre livre sacré, nos écritures, nos textes fondateurs, ben c'est le Pentateuque, ils ont la Torah de Moïse, et ils ont le système sacrificiel du Pentateuque, ils ont les patriarches, etc. etc. » Et ils disent « C'est nous !» Et c'est en hébreu, enfin je veux dire, voilà. Donc c'est, et ils vont dire simplement « Nous, dans notre Pentateuque à nous, on nous dit que c'est bien sur le mont Garizim qu'il faut construire un temple. » Et effectivement, quand vous lisez le Pentateuque des Samaritains, eh bien, il est fait allusion à plusieurs reprises du mont Garizim. Alors, on avait pensé que cette recension samaritaine était un peu tordue, etc. Mais en fait, on a retrouvé, il y a quelques années seulement, un manuscrit du Deutéronome à Qumran, donc parmi les manuscrits de la Mer Morte. On ne sait pas exactement quelle grotte, est-ce que c'est une des grottes de Qumran ou une des autres grottes, disons, au bord de la Mer Morte. Mais en tout cas, un texte en écriture judéenne, pas en écriture samaritaine, et qui, là où le texte massorétique, le texte hébreu des Juifs, a le mot Ebal, en disant il faut. En fait, c'est bien le mont Garizim qu'il y a dans ce manuscrit-là. Donc, ça veut dire que ce Pentateuque que les Samaritains utilisent, il n'est pas complètement tordu, il y a vraiment des traditions anciennes, et il y a bien des traditions liées au mont Garizim par opposition au mont Ebal. Même dans le Deutéronome, même dans votre Deutéronome, j'allais dire, si vous prenez le Deutéronome ici, vous avez la bénédiction sur le mont Garizim, la bénédiction sur le mont Ebal. Regardez sur le Deutéronome 26, 27, par exemple, vous avez bien ça, il est bien fait allusion, même avant, hein, chapitre 27, Deutéronome 27, verset 12, 13, il y a des tribus qui se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple, et d'autres qui se tiennent sur le mont Ebal pour la malédiction. Donc il y a bien la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Ebal. Et ça, vous l'avez également avant la section du code deutéronomique. Vous l'avez Deutéronome chapitre 11, verset 26. Je place aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. Et un peu plus loin, verset 29, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. Donc, vous voyez bien qu'il y a bien des traditions liées au mont Garizim avec la bénédiction. Donc, les Samaritains, c'est peut-être pas non plus totalement absurde l'idée qu'ils aient effectivement un temple sur le mont Garizim. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est pas dit de façon frontale dans Esdras ici, on voit que c'est bien à ça qu'il est fait allusion. Il y a une compétition, entre guillemets, entre les Samaritains et les Judéens. Et donc, du coup, ici, on prend position très clairement. On a des documents pro-judéens, à la fois le passage du deuxième livre des rois dont on a parlé tout à l'heure, à la fois le livre d'Esdras. Au contraire, on dit attention, il ne faut surtout pas se mélanger avec ce peuple, ce sont des traîtres, en fait, ils ne cherchent qu'à ralentir le travail. Et ensuite, du coup, dans les chapitres 4, 5, 6, on a donc un aller-retour, chacun écrit des lettres au gouverneur perse ou au chancelier, etc. Pour dire attention, donc les ennemis des Judéens écrivent des lettres pour faire arrêter le travail, les Judéens répondent en disant mais non, c'est des calomnies, et les autres écrivent encore, etc., etc. Donc ça dure des chapitres 4 à 6, et finalement, chapitre 6 quand même, on célèbre la Pâque, tout va bien, etc., etc. Le chapitre 7, c'est l'arrivée d'Esdras. Donc c'est la deuxième partie du livre d'Esdras, chapitre 7 à 10. Esdras entre en scène. Alors Esdras, c'est un scribe, et qui est prêtre. Et donc, c'est lui qui va mettre un peu d'ordre, on va dire, restaurer, réformer le culte à Jérusalem. Les chapitres 7 à 10, on peut distinguer deux parties là encore. Chapitre 7 à 8, c'est l'arrivée à Jérusalem. Et les chapitres 9 à 10 vont traiter du problème des épouses étrangères. Chapitre 7, il est question du règne d'Artaxerxès, et on nous dit qu'il arrive à Jérusalem, verset 8, la septième année du roi. Alors la question, c'est de quel Artaxerxès parle-t-on ? Est-ce que c'est Artaxerxès Ier, qui a régné de 464 à 424, à peu près ? Autrement dit, on serait en 458 avant notre ère. Ou bien est-ce que c'est Artaxerxès II qui a régné de 404 à 359, auquel cas on sera en 398 environ. Donc vous voyez, il y a une différence d'une soixantaine d'années, ou bien on est en 458, donc milieu du 5e siècle, ou bien on est en 398, donc on est au début du 4e siècle. Alors, il est mandaté. C'est un scribe, donc c'est un lettré, et on nous raconte comment il a une lettre d'Artaxerxès qui l'envoie à Jérusalem, etc., pour qu'il s'occupe de faire observer la loi de Yahvé. Alors, il y a pas mal de textes, tous ces textes de correspondance, ces lettres, ces va-et-vient, etc., à chaque fois, c'est en araméen. Donc, quand vous lisez le livre d'Esdras, vous êtes en hébreu, et plof, d'un seul coup, vous passez à l'araméen, et ensuite, vous revenez à l'hébreu. Alors le fait que tous ces documents soient en araméen, ça correspond exactement à la structure de l'Empire perse, l'organisation administrative de l'Empire perse, comme je vous disais tout à l'heure. Effectivement, toute la correspondance administrative qu'on a, et on en a, hein, on a des lettres en dehors de la Bible qui ont été découvertes et qui sont publiées encore régulièrement, et tout ça c'est en araméen. Et l'araméen est proche d'ailleurs de l'araméen qu'on trouve dans les lettres, y compris les formules épistolaires, etc., etc. Donc c'est assez cohérent, disons, d'un point de vue chronologique avec ce qu'on sait sur ce qui se passe à l'époque. Donc ensuite, au chapitre 8, on a le voyage lui-même, avec qui il revient, et puis son arrivée à Jérusalem. Et puis ensuite, le problème des chapitres 9 et 10, concrètement, c'est le problème des épouses étrangères. Et donc on voit que le problème du livre d'Esdras, qu'on avait déjà tout à l'heure au chapitre 4, hein, chapitre 4 à 6, ce sont ces populations qui ne sont pas judéennes et qui disent « mais oui, si, si, soyons amis, rebâtissons ensemble le temple, etc. » C'est la question de la mixité, en fait. C'est le vrai problème du livre d'Esdras. On le voit dans la première moitié, quand il s'agit de rebâtir le temple. Et on le voit dans la deuxième moitié, quand il s'agit des épouses étrangères. À chaque fois, c'est le problème de mixité. Il ne faut pas se mélanger. Voilà, le message du livre d'Esdras, c'est « il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas adorer avec d'autres peuples, même s'ils prétendent vouloir adorer Yahvé, et il ne faut pas épouser les femmes étrangères. » Au point même de les renvoyer, hein, c'est-à-dire que donc c'est, au chapitre 9, il apprend ce qui se passe. On nous dit, verset 1er, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des peuples et des pays et de leurs abominations. Verset 2, ils ont pris leurs filles pour eux-mêmes et pour leurs fils. Ils ont mêlé la descendance sainte avec des peuples des pays, etc. Bref. Verset 3, lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Ça va faire mal, ça. De... Bref. Non. Oui, on va retrouver. Ah oui, bien sûr, on va retrouver les mêmes thèmes. Mais alors oui, c'est, on va retrouver la même. On va retrouver évidemment la même visée, cette visée de théronomiste. Mais je pense que là, on est dans une raison plutôt post-deutéronomiste.
À cause de l'âge de la rédaction.
Probablement, oui. Alors maintenant, ça dépend à quelle époque on situe la rédaction deutéronomiste, etc. C'est ça le problème, quoi. Maintenant, si on imagine que la rédaction deutéronomiste, elle est complètement post-exilique, à ce moment-là, on est contemporaine. Mais maintenant, il y a plusieurs phases au sein même de la littérature deutéronomiste. On voit bien qu'il y a un certain nombre de distinguer deutéronomiste 1, 2, 3, etc. Donc là, on peut être dans des milieux deutéronomistes, mais tardifs à ce moment-là. Mais disons que l'unité littéraire, c'est plutôt entre Esdras, Néhémie et les chroniques qu'on va voir tout à l'heure, qui font un bloc à part. Et du coup, on voit bien les chroniques elles-mêmes. Ouais, je vais y venir. Quand on parlera des chroniques, du coup, je reviendrai sur ce point-là. Donc, du coup, il s'arrache les cheveux et puis il prie. Donc, il y a cette longue prière au chapitre 9 où il prie, il demande pardon, etc., etc. Et après avoir demandé pardon, ben maintenant, il faut agir. Et au chapitre 10, alors, ils font quelque chose qui est assez choquant, c'est que verset 3, « Concluons une alliance pour notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants. » Donc, et du coup, ça va être... Alors, non seulement c'est choquant, mais en plus, on dit, mais le boulot est énorme. Ça va prendre du temps, etc., etc. Donc, du coup, on va faire un calendrier. Et on dit, voilà, tout, verset 14, « Tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères viendront aux dates fixées. » Et donc, il y a une sorte de convocation, de calendrier pour aller faire la liste et de se débarrasser de ces femmes étrangères et de leurs enfants. Alors, vous imaginez, enfin bref, je trouve ça assez... Voilà, bref. Donc, c'est ça le travail de Néhémie. Donc, c'est, pour nous, bon, évidemment, c'est un peu choquant vu comme ça. Alors, bon, maintenant, il faut comprendre. Hein. Il faut comprendre, évidemment, que c'est en lien avec voilà, cette notion de préservation de l'identité. On est en quête d'identité, et notre identité, c'est une identité ethnique. Et cette identité ethnique, ça veut dire qu'il faut protéger, donc il ne faut pas se mélanger aux autres populations. Notre Dieu, c'est le Dieu à nous et pas aux autres, etc. etc. Évidemment, c'est en contraste avec ce qu'on a vu, par exemple, avec Ruth. On parlait de Ruth la dernière séance. Évidemment, là, c'est tout l'opposé. Hein. Ruth, c'est ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, etc. etc. Là, on n'est pas du tout dans la même perspective. Au contraire, on veut préserver l'identité. Et cette identité, elle est à la fois religieuse et ethnique. On ne distingue pas l'identité religieuse et l'identité ethnique. Et c'est important parce que c'est l'époque où, justement, on vient créer ce qu'on appelle le judaïsme. Et le judaïsme, c'est la religion judéenne. Donc, aujourd'hui, on va parler des juifs, mais il vaut mieux parler des judéens parce que être juif ou l'adjectif juif désigne souvent plutôt la religion, hein, la religion juive, les documents juifs, etc. nous, on va avoir tendance à distinguer la religion et l'ethnie. À l'époque, on ne distingue pas du tout. Il n'y a pas un adjectif judéen, un adjectif juif. Il n'y a qu'un seul adjectif. Cet adjectif, c'est l'adjectif judéen. Et il désigne aussi bien le caractère ethnique du caractère religieux. Et ça n'est que très tardivement. À mon avis, il va falloir attendre la toute fin du 1er siècle de notre ère, ou même le début du 2e siècle de notre ère, pour qu'on distingue l'ethnie et la religion. Concrètement, c'est à la fin du 1er siècle de notre ère, il y a ce qu'on appelle le fiscus judaicus, c'est-à-dire que on est à l'époque romaine, on est après la destruction du temple, les Judéens avaient pour habitude de récolter un impôt pour le temple à Jérusalem, donc tous les Judéens dispersés dans l'Empire, dans le bassin méditerranéen, ceux qui étaient en Égypte, ceux qui étaient en Anatolie, en Grèce, à Rome, etc., chaque année donnaient un impôt qui allait à Jérusalem. Et ils avaient l'accord, dans l'Empire romain, c'était OK, avec l'empereur romain, c'était OK pour que les Judéens, récoltent cet impôt et l'amènent à Jérusalem. Après la destruction du temple en 70, par Titus, le général romain Titus, l'empereur romain de l'époque, c'est Vespasien, se dit, tiens, mais finalement, c'est pas une mauvaise idée de continuer à prélever cet impôt auprès des Judéens, sauf qu'au lieu que ça aille dans les caisses du temple à Jérusalem, puisqu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, ça ira dans les caisses de Rome. Donc en fait, il y a cet impôt aux Judéens, tous les Judéens de l'Empire romain doivent payer un impôt spécial qui va à Rome. Ce qui est quand même bizarre qu'une population en particulier soit taxée simplement parce qu'ils sont Judéens. Bon. Alors maintenant, comme avant c'était un impôt plus ou moins volontaire, au temple de Jérusalem ne donnait que ceux qui voulaient. Et simplement, à l'époque de Domitien, sous l'empereur Domitien, cet impôt a été exigé de façon un peu violente. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les Judéens qui le voulaient. Tous les Judéens devaient le faire. Et on nous raconte, Suétone, qui au IIe siècle de notre ère nous raconte la vie des 12 Césars, nous raconte par exemple qu'à un moment donné, on prend un vieillard qu'on va déshabiller en public pour voir s'il est circoncis. Donc il est tout nu en public pour voir si c'est un vieillard, on voit s'il est circoncis, pour le forcer, le cas échéant, à payer cet impôt. Donc vous imaginez un peu le traumatisme. Et on nous dit après que Nerva, oui c'est ça, j'ai un doute, je crois que c'est Nerva, l'empereur Nerva, en 96, du coup, de notre ère, si les dates sont bonnes, je vous dis tout ça de tête, hein, si les dates sont pas bonnes, il ne faut pas m'en vouloir, ce fiscus judaicus, cet impôt imposé aux Judéens, en disant ne paye que ceux qui se réclament de la religion du judaïsme. Alors on n'en sait rien en fait, hein, j'ai pas de détails. On sait juste qu'il a assoupli. On nous dit juste qu'il a assoupli, et on le sait parce qu'il a même mis ça sur ses pièces de monnaie. Il a même dit qu'il a enlevé la honte, je sais plus comment c'est formulé en latin, mais cette abomination, cette honte qui pesait sur les Judéens à cause de ce que Domitien avait fait. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait il a concrètement assoupli en disant finalement ne paye que ceux qui veulent. Donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire en tout cas, à un moment donné, des Judéens ont eu la possibilité de dire « je ne me sens pas judéen », probablement en distinguant le caractère religieux et le caractère ethnique. On n'en sait rien, mais c'est probablement quelque chose comme ça. En tout cas, à un moment donné, il a été possible pour quelqu'un qui était pourtant d'ethnie, il faisait partie du peuple judéen, de dire « non, je ne suis pas judéen ». Autrement dit, peut-être j'adhère pas à cette religion. Bon. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à faire la distinction. Et évidemment, c'est aussi l'époque où le christianisme commence à naître, et donc le christianisme qui est une branche du judaïsme, mais justement qui commence à intégrer des gens qui ne sont pas judéens, et dont on va dire ils n'ont pas besoin de devenir judéens pour suivre le Christ, Jésus. Et donc petit à petit, on va, là encore, distinguer l'appartenance ethnique et la croyance religieuse. Donc on a une époque, à mon avis, fin du 1er siècle de notre ère, début du 2e siècle, où on commence à distinguer l'appartenance ethnique et la croyance religieuse. Mais là, on est très très loin de tout ça. Là, on est au 5e siècle avant notre ère. Et au 5e siècle avant notre ère, vous voyez, il y a un lieu égale un peuple égale un dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça l'enjeu du livre des traces, c'est de préserver l'identité nationale. Je me suis encore fait avoir avec le temps, à chaque fois je regarde l'horloge, mais je me rends compte que ça fait déjà 40 minutes que je parle. Bon, alors je me dépêche. Néhémie. Néhémie s'intéresse à la reconstruction de la ville et surtout des murailles. Là encore, deux parties dans le livre de Néhémie, chapitres 1 à 7, reconstruction des murailles en soi, c'est là encore l'essentiel du livre. Et ensuite, les chapitres 8 à 13, on va avoir une sorte de restauration du culte. Alors, vous allez me dire, on a déjà fait ça avec Esdras. Oui, mais vous allez voir, on va le refaire. Et un certain nombre de réformes. Alors, les chapitres 1 à 7, on va retrouver, alors, donc, reconstruction des murailles elles-mêmes. Les deux premiers chapitres sont consacrés, racontent, posent le cadre chronologique, là encore, c'est le retour à Jérusalem de Néhémie. Alors, on nous explique que c'est les chansons du roi, qu'il y a déjà des Judéens qui sont repartis, donc ça veut dire qu'on se place plus tard. Et effectivement, on va voir qu'on se place plusieurs décennies après, mais évidemment, seule une petite partie des Judéens est rentrée en Judée, il a des nouvelles, et là, il apprend que finalement, il y a des brèches dans la muraille, donc il est triste. Le roi ou l'empereur, pourrait-on dire, s'en rend compte, et lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, du coup, il lui dit au chapitre 2 « mais vas-y, rentre et occupe-t'en ». Et donc, on nous donne le repère chronologique, on nous dit que c'est la 20e année du roi Artaxerxès. Alors, on va nous dire, mais lequel ? Probablement Artaxerxès Ier. Donc, c'est 464-424, je vous avais dit tout à l'heure à peu près. Donc, si c'est la 20e année, on va dire, on est grosso modo en 445 avant notre ère. Donc, on est, mine de rien, presque un siècle après l'édit de Cyrus. L'édit de Cyrus, c'est 538-445, on est pratiquement un siècle après quand même. Et donc, il retourne, chapitre 2, à Jérusalem. Ensuite, les chapitres 3 à 6, on commence à rebâtir les murs, et vous allez voir le même phénomène, il y a des adversaires. Donc, vous voyez le parallèle entre le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, même problématique. On a des adversaires, des gens qui vont s'opposer à la reconstruction, qui vont calomnier, qui vont dire des choses, il faut dire non, il faut intervenir, etc., etc. Donc, ça va être chapitre 3 à 6, si vous voulez. Chapitre 3 à 6, il y a encore un va-et-vient. Alors, du coup, pour éviter qu'ils les attaquent de nuit, ben, on va poster des gardes. Donc, il y a les gens qui travaillent d'une main et qui tiennent l'épée de l'autre, qui ont fait des rondes, on fait des... Comment on appelle ça des, on alterne, hein, on fait des tours de garde, etc., etc. Finalement, la fin du chapitre 6, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Eloul, en 52 jours, etc. Bon. Et le chapitre 7, une sorte d'épilogue, on nous dit, voilà, on prend les mesures, tout se passe bien, on nous donne une liste de ceux qui sont rentrés, etc. Donc vous avez le côté un peu caractère administratif, avec une liste de noms et de populations, caractère démographique. La deuxième partie du livre de Néhémie, chapitre 8, et ben là encore, Esdras apparaît. C'est quand même bizarre, Esdras apparaît au milieu du livre d'Esdras, il apparaît au milieu du livre de Néhémie. D'un seul coup, Esdras apparaît. Alors du coup, ça veut dire qu'on nous dit qu'Esdras et Néhémie doivent être contemporains. Donc si effectivement on place Esdras sous... Et si on place à la fois Néhémie et Esdras sous Artaxerxès Ier, ça nous donne Esdras en 458. Et là, effectivement, Néhémie serait en 445. Donc logique, ils sont bien contemporains l'un de l'autre. Mais en fait, d'un autre côté, ils ne se parlent pas beaucoup. C'est-à-dire qu'Esdras arrive, il fait son show, il va intervenir, il va y avoir cette cérémonie publique, etc., etc., puis Esdras disparaît. Et donc, on a quand même l'impression que c'est un peu artificiel de vouloir les mettre ensemble. C'est pour ça que d'autres disent qu'en fait, Esdras est peut-être plus tard, peut-être plutôt sur Artaxerxès II en 398, mais que rétrospectivement, on a voulu injecter du Esdras à l'époque de Néhémie pour avoir toujours ce caractère avec les deux pouvoirs, d'une part pouvoir politique, pouvoir sacerdotal. En distinguant bien, en disant attention, on ne voudrait pas qu'il y ait Néhémie tout seul, Néhémie qui lui a un pouvoir, Néhémie qui a un pouvoir politique, on ne voudrait pas qu'on ait l'impression qu'il ait aussi un pouvoir religieux, il lui faut un alter ego religieux, et donc on vient chercher Esdras. Vous voyez, verset 9, son excellence Néhémie, et puis Esdras le prêtre scribe. Donc vous voyez qu'il y a deux personnages principaux, il y a toujours pouvoir politique, pouvoir sacerdotal. Donc on lit dans le livre de la loi, verset 18, au passage, on nous dit verset 8, chapitre 8, verset 8, qu'il faut le lire, mais qu'il faut aussi en donner le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors, donner le sens, ça veut dire interpréter littéralement. Et vous savez, quand on a besoin d'un interprète, est-ce qu'on a besoin d'un interprète parce qu'on ne comprend pas bien, ou est-ce qu'on a besoin d'un interprète parce qu'on parle une autre langue? Et là, la racine qui est utilisée, c'est les targem, et c'est là qu'il y a le mot targum. Les targum, c'est les versions araméennes de la Bible. Donc, la tradition nous dit qu'en fait, quand on dit qu'il a fallu qu'ils interprètent, c'est que la population locale ne comprenait plus l'hébreu, donc on lisait le texte en hébreu, mais en même temps, comme les gens ne comprennent pas, dans la foulée, on le traduit en araméen. Et ce serait la naissance des targoums. C'est pas si stupide que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, de fait, on voit bien que tout le monde se met à parler en araméen. Quand on regarde en épigraphie les mêmes sites archéologiques, moi je travaille sur des sites en Cisjordanie, au même endroit, les ostracas du 7e siècle sont en hébreu, les ostracas du 4e siècle sont en araméen. Donc il n'est pas impossible que les gens, effectivement, ne parlaient plus vraiment hébreu, parlaient surtout l'araméen. Quand au 3e siècle, on traduit la Bible hébraïque en grec, à Alexandrie, les traducteurs grecs, on voit qu'ils sont plus habitués à l'araméen qu'à l'hébreu. La Pâque, il traduit ça « passera » et pas « pessar ». « Pessar », c'est le mot hébreu, « passera », c'est le mot araméen. Donc la Pâque, dans la Septante, dans la version grecque de la Bible au 3e siècle, la Pâque, c'est, ils utilisent le mot araméen, pas le mot hébreu. Alors que quand même, c'est des juifs. Enfin, je veux dire, c'est des judéens, ils pourraient quand même connaître le mot hébreu. Donc, à mon avis, il est fort possible qu'il y avait déjà des targoums à l'époque. En tout cas, pas très longtemps après, peut-être dès le 5e, 4e, 4e siècle, peut-être, j'en sais rien. Donc, au chapitre 9, vous avez une longue prière solennelle, etc., etc. Voilà. Donc, je vous dis, c'est là que Esdras fait son intervient. Et puis ensuite, les chapitres suivants, on va prendre des décisions à caractère religieux. Il faut que tout le monde s'engage. Voyez, chapitre 10, verset 30, « Ils s'engagèrent par serment sous peine de malédiction à suivre la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, etc., etc. » Et puis ensuite, alors au chapitre 11, vous avez des documents, on a une liste de la population qui est revenue. On nous dit que c'est 10% de la population, un dixième de la population. Et puis, on a une inauguration de la muraille, chapitre 12, verset 27. Lors de la dédicace de la muraille, on alla chercher les Lévites, etc., etc. Et puis, on nous dit les célébrations qu'on fait, chapitre 12. Et puis, chapitre 13, de nouveau lecture du livre de Moïse. Et puis, on nous dit, verset 3, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël toute la population mêlée. Donc, vous voyez qu'au chapitre 13, qui est le dernier chapitre de Néhémie, on revient encore sur la question de la mixité. Et on revient encore pour dire, attention, il faut surtout pas se mélanger. On revient sur la question des femmes. Et verset 23, je vis des Judéens qui avaient épousé des femmes ashdodites, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlait l'ashdodite et ne savait pas parler le judéen. Donc, vous voyez, il est question des femmes étrangères. Donc, finalement, ce thème, on voit bien qu'il recouvre également Esdras et Néhémie. Donc, vous comprenez pourquoi il y a une unité littéraire entre Esdras et Néhémie. On traite plus ou moins de la même période, le retour de l'exil, les judéens à l'époque perse. Quelle est l'identité? Cette identité, elle passe par la restauration du culte, l'autel, le temple, une certaine autonomie malgré tout politique avec, on a notre gouverneur, notre ville a des murailles, hein, on veut quand même avoir, on a une fierté quand même nationale, et puis surtout, d'un point de vue ethnique, ne pas se mélanger. À la fois dans le culte et à la fois d'un point de vue au niveau marital. Et on vient donc, évidemment, promulguer la loi de Moïse, etc. Tout le monde doit s'engager à y obéir, etc. etc. Alors, je termine avec le livre des Chroniques, dans les quelques minutes qui nous restent. Le livre des Chroniques, qui est donc placé à la fin de la Bible hébraïque. Alors, vous voyez, nous, si vous avez des Bibles françaises, selon l'ordre, selon la version française que vous avez, vous faites des allers-retours dans votre Bible. Le livre des Chroniques est placé après, alors parfois un peu avant. On peut avoir Chronique Esdras-Néhémie ou Esdras-Néhémie-Chronique. Ça semblerait logique de mettre Chronique avant Esdras, puisque les premiers versets d'Esdras, on nous dit, voilà, la première année de Cyrus, etc., afin que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par Jérémie, etc., etc. Quand vous lisez ça, en fait, c'est exactement la fin du deuxième livre des Chroniques. Justement, si vous lisez les deux derniers versets du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, versets 22 et 23, la première année de Cyrus, afin que s'accomplisse la parole de Yahvé prononcée par Jérémie, Yahvé éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, etc., ainsi parle Cyrus. En fait, c'est du copier-coller. Donc, clairement, on voit que le dernier verset du livre des Chroniques et le premier verset du livre d'Esdras, ce sont les mêmes. Donc, on fait un lien. C'est vraiment un point de couture, hein, comme quand on fait du patchwork. C'est vraiment pour dire les deux se mettent ensemble. Donc il faut plutôt en fait voir 1, 2 Chroniques, puis Esdras, Néhémie. Mais en réalité, dans les Bibles hébraïques, dans l'ordre qui a fini par s'imposer à la fin, assez récemment d'ailleurs, eh bien finalement c'est l'ordre inverse. Pourquoi ? Parce que on estime que le livre des Chroniques vise à brosser finalement toute l'histoire, pratiquement de l'humanité, on pourrait dire, et du peuple. Alors évidemment, il s'arrête malgré tout à l'époque perse, mais il fait quand même allusion à l'époque perse. Donc depuis la création jusqu'à l'époque perse, pratiquement. Donc on dit que c'est une sorte de synthèse finale. Et donc il arrive comme ça en dernier. Alors le livre des Chroniques, on l'appelle chronique en français parce qu'en fait en hébreu on dit il s'appelle le Divrei Hayamim, littéralement ce sont les choses des jours ou les paroles des jours. Alors donc ça veut dire les jours, c'est les époques, on va dire de manière générale, et donc ce sont les affaires des époques, à travers les époques. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe, les événements, etc., etc., à travers le temps. Donc les chroniques. Dans la version grecque, on les appelle les paralipomènes. Les paralipomènes, littéralement, ce sont les choses omises, ce qui a été omis. On vient compléter. C'est l'idée, oui, finalement, il y a des choses qui n'ont pas été dites, alors on vient les compléter. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, effectivement, quand vous lisez l'idée chronique, vous avez l'impression de relire le livre de Samuel, le livre des rois. Vous avez du copier-coller. Vous dites, c'est quand même bizarre, on redit la même chose. Ah, puis dans le détail, en fait, non. On se rend compte que les détails changent. On dit, ah, voilà, quelqu'un a voulu donner des détails supplémentaires. En fait, ce n'est pas que quelqu'un a voulu donner des détails qui ont été omis. Il y a une véritable réécriture. Ça veut dire que le livre des chroniques entend supplanter le livre de Samuel et des rois. Le phénomène de réécriture, c'est un phénomène qui est bien documenté maintenant grâce aux manuscrits de la Mer Morte. Avant, on avait peu d'exemplaires, d'exemples de réécriture. On avait les chroniques, effectivement, qui sont des réécritures de Samuel Roy pour la Bible hébraïque. Dans le Nouveau Testament, on a le cas des évangiles synoptiques, où on voit bien qu'on a des réécritures de la vie de Jésus. Maintenant, on en a d'autres. À Qumran, on a tout un tas de livres qui se présentent comme des réécritures. On est en train de finaliser le troisième volume de la bibliothèque de Qumran, qui va paraître là cette année. Et on a des réécritures du Pentateuque, qu'en veux-tu, en voilà. Des manuscrits, et on ne sait pas d'ailleurs à quel moment on va appeler ça des réécritures. On a des manuscrits avec des variantes. On va, tiens, un verset de plus, par ici, par là, un petit détail en plus, en moins, un déplacement, tiens, tel chapitre, je vais le mettre ici, je vais le mettre là. Des harmonisations, en disant, mais quand même, dans le Deutéronome et dans le Lévitique, on a des choses en commun. Et dans une certaine mesure, le livre de Deutéronome, on a vu que déjà, il y a vous allez avoir les 10 commandements, etc., etc. Donc vous avez ce phénomène de réécriture déjà au sein du Deutéronome, au sein du Pentateuque. Donc on va harmoniser tout ça. Et donc on se rend compte qu'en fait, il y a un phénomène d'écriture continue. En fait, on écrit et on ne s'arrête pas d'écrire et on continue à réécrire. Et ce processus de réécriture, il peut être soit dans le détail, je réécris un mot, une phrase, un verset, un chapitre, une section, ou alors je vais carrément réécrire l'ensemble. Et si je réécris l'ensemble, c'est pour faire une nouvelle version améliorée. Et du coup, l'ancienne version, on peut s'en débarrasser. J'ai une nouvelle version qui est mieux que la précédente, donc pourquoi garder l'ancienne ? Sauf que justement, dans certains cas, l'ancienne, elle se maintient. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Samuel Roy s'est maintenu, et le livre des Chroniques s'est maintenu. Hein, on aurait pu imaginer qu'on garde l'original en disant « mais la nouvelle version n'est qu'une pâle copie de l'original, je préfère l'original parce qu'il est plus ancien et donc il est mieux ». On aurait pu imaginer au contraire qu'on garde la nouvelle version en disant « mais du coup, l'ancien est désuet, c'est obsolète, maintenant on a une nouvelle version qui est beaucoup mieux ». Mais finalement, les deux se sont maintenus et les deux ont fini par être canonisés. Alors, du coup, on ne va pas étudier en détail les chroniques, vous allez voir qu'on reprend des choses qui ont déjà été vues. Je vous donne le plan d'ensemble, tout simplement. Vous avez une première section qui s'intéresse à la période qui va d'Adam... Une première section, on va dire, qui couvre toute la période de l'histoire. Les 9 premiers chapitres, ce sont des généalogies. Les chapitres 1 à 9 du livre des Chroniques, c'est une première section, c'est une section généalogique. On a tout depuis Adam jusqu'au retour de l'exil. Vous imaginez, donc vous avez toute l'histoire de l'humanité, depuis la création jusqu'à nos jours. Quand je dis nos jours, c'est l'époque perse, c'est-à-dire c'est l'époque de rédaction du livre des Chroniques. Le livre des Chroniques est rédigé à l'époque perse, donc on raconte tout depuis la création du monde jusqu'au jour de rédaction, c'est-à-dire l'époque perse, le retour d'exil. La deuxième section va s'intéresser à David, chapitre 10 à 29. Ensuite, on va s'intéresser à Salomon. Ce sont les 9 premiers chapitres du deuxième livre des Chroniques. Alors effectivement, du coup, on a séparé le livre des Chroniques en deux. Vous avez 1 et 2 Chroniques. Mais cette séparation, elle est artificielle. On en avait parlé en disant 1, 2 Samuel, c'est artificiel. 1, 2 Rois, c'est artificiel. Et même 1, 2, 3, 4... Enfin, 1, 2 Samuel et 1, 2 Rois, c'est les quatre livres des règnes. Donc tout ça, c'est... En fait, 1, 2 Chroniques, c'est un seul livre. Donc on a mis une séparation. Où est-ce qu'on a mis la séparation? Ben, entre David et Salomon. Donc Salomon arrive, ce sont les 9 premiers chapitres du deuxième livre des Chroniques. Et puis ensuite, chapitres 10 à 36... Ce sont les rois, après Salomon, jusqu'à l'exil, et même, il est fait allusion au retour de l'exil. Donc, finalement, vous reprenez ce que vous avez déjà, grosso modo, dans le livre de Samuel des rois. Alors, pourquoi réécrire tout ça? D'une part, je l'ai dit, parce qu'on veut brosser l'histoire de l'humanité, et en particulier du peuple d'Israël, les patriarches, l'établissement en terre promise, etc., etc. Donc là encore, on renforce l'identité nationale. N'oubliez pas, on est à l'époque perse, on veut renforcer l'identité nationale, et c'est important pour ça de dire, nous sommes ici, voilà comment on a hérité de cette terre, voilà qui nous sommes, voilà notre... Voilà, quand on relate l'histoire, ça renforce l'identité. On existe depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Et montrer cette continuité, premièrement. Deuxièmement, ce que vous allez voir très vite, la différence fondamentale, c'est la proéminence du pouvoir sacerdotal et notamment des Lévites. C'est-à-dire que vous avez, à tout bout de champ, on nous parle des prêtres, des Lévites, etc., etc. Regardez par exemple à l'époque de David. À l'époque de David, on nous dit, vous allez retrouver l'histoire de David, mais on nous dit, chapitre 23, 24, etc., eh bien on nous donne les classes des Lévites. Chapitre 23, verset 6, David les divisa en classes d'après les fils de Lévi. Donc, on nous dit les différentes classes, les fils, on nous donne, vous avez des longues listes de qui sont là. Chapitre 24, les classes des prêtres, les fils d'Aaron, chapitre 24. Chapitre 25, les classes des chantres. Chapitre 26, les classes des portiers, etc. Donc, avec des tâches spéciales pour les lévites, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, on nous donne des précisions. Donc, le caractère sacerdotal est largement mis en avant. Ensuite, quand il s'agit de la construction du temple, vous savez qu'on nous dit que ce n'est pas David qui construit le temple, c'est Salomon. Simplement ici, ce qu'on nous dit, c'est que David, non seulement il charge Salomon de le faire, mais il va même tout préparer, il va même lui donner le plan, chapitre 28, verset 11. David donna à Salomon, son fils, un modèle du vestibule et de ses maisons, des salles du trésor, des chambres, des salles intérieures, de la maison de l'expiatoire. Il lui donna un modèle de tout ce qu'il avait, etc., etc. Verset 13, les classes des prêtres et des lévites. Etc., etc. On va nous dire même le poids, verset 15, des porte-lampes et de leurs lampes. Donc on retrouve, vous savez, tout ce qu'on avait dans le Pentateuch à l'époque de Moïse, où vous aviez tout ce détail du mobilier, du sanctuaire, etc. Dieu qui avait donné un modèle à Moïse, eh bien David donne un modèle à Salomon. Donc on insiste, donc le temple est au centre, en fait. Et si vous continuez, vous poursuivez au deuxième livre des Chroniques, vous avez Salomon, il est là pourquoi ? Le règne de Salomon, il est surtout là pour le temple et pour la dédicace du temple. On vous raconte, alors vous avez de nouveau droit à tout le détail qui est beaucoup plus développé que dans le livre des rois. Vous avez tout le détail du mobilier, de l'organisation, du dépôt du temple. Et puis surtout, vous avez la consécration du temple, des choses fabuleuses, la nuée qui rentre dans le temple, etc., etc. Et puis un discours de consécration du temple qui est une prière avec une prière, etc., etc. Voilà qui est fabuleux, les sacrifices qui sont offerts par Salomon, chapitre 7, etc., etc. Donc, vous avez la place qui est donnée au temple. Ensuite, quand vous lisez les livres des règnes des rois, régulièrement, il est fait allusion aux prêtres, aux lévites, beaucoup plus que dans les livres des rois. Donc ça, vous pouvez mettre côte à côte. Et puis, on intervient sur les règnes de certains rois. Ça c'est le dernier point, je vois que c'est l'heure donc on va s'arrêter là, mais vous avez même droit à des réécritures de certains règnes. Prenez par exemple le règne de Manassé, chapitre 33, 2 Chroniques 33. Si vous comparez avec le règne de Manassé dans le livre des rois, vous êtes dans 2 Rois chapitre 21, juste pour vous donner une idée, hein. Dans 2 Rois 21, on nous dit que évidemment Manassé est un mauvais roi, donc 2 Rois 21 verset 3, il se prosterna devant toute l'armée du ciel, verset 7, il plaça la statue de l'Achéra qu'il avait faite dans la maison dont Yahvé avait dit à Salomon son fils, etc. Donc dans le temple de à Jérusalem, il met la statue de d'Achéra, etc. À la fin, verset 16, Manassé répandit beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, etc. Il fit tout ce qui donc il tout le péché, etc., etc. Verset 17, le reste de l'histoire de Manassé, tout ce qu'il a fait, le péché qu'il a commis, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Alors quand on parle du livre des chroniques, c'est pas le livre des chroniques qu'on connaît. Hein. Manassé se coucha avec ses pères, fut enseveli, etc., etc. Bon, voilà. Donc il a fait tout le péché qu'il a fait et il est mort et enterré et c'est bien fait pour lui. Bon. Eh ben, pas du tout. Deux chroniques 33, on nous raconte bien sûr tout ce qu'il a fait qui était mal, mais ce qu'on nous dit, le Seigneur fit venir contre les chefs de l'armée, etc. Et verset 12, lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé chercha à apaiser Yahvé, il s'humilia profondément. Il pria Yahvé, celui-ci se laissa fléchir, il entendit sa supplication, le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Ainsi, Manassé sut que c'est Yahvé qui est Dieu. Voilà. Et on nous dit, il rebâtit le muraille, verset 14, il rebâtit l'autel, verset 16. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, il est formidable, cet homme. Il rebâtit l'autel, etc., etc. Verset 19, sa prière et la manière dont Dieu se laissa fléchir, ses péchés, ses sacrilèges, les endroits où il bâtit les hauts lieux, etc., 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 avant de s'être humilié, cela est écrit dans l'histoire de Hosaï, alors on ne sait pas qui c'est, etc. Donc, on dit, oui, avant de s'humilier, d'accord, il a fait ses mauvaises choses, mais ensuite, il s'est humilié. Et Manassé se coucha avec ses pères, on l'ensevelit, etc., etc. Bah, là, d'un seul coup, on dit, c'est quand même bizarre, quoi. Bon. Donc, vous voyez, on va comme ça réécrire. Alors, il faudrait rentrer dans le détail, évidemment, là, pour le coup, faire une étude comparée. Mais vous voyez que le livre des chroniques se présente vraiment avec une orientation différente. Il émane d'un milieu sacerdotal, tout comme Esdras, Néhémie. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment les milieux deutéronomistes, c'est surtout des milieux sacerdotaux. Alors, les milieux sacerdotaux vont être d'accord avec les milieux deutéronomistes en érigeant la loi de Moïse, évidemment, comme étant hyper importante. Mais, la loi de Moïse, certes, mais avant tout de dire, de mettre en avant le pouvoir sacerdotal, le milieu sacerdotal et le pouvoir lévitique, notamment. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève notre traversée de la Bible. Vous vous rendez compte, depuis le début de l'année, depuis la Genèse jusqu'au deuxième livre des chroniques, nous avons lu tous ensemble tout au long de cette année la Bible hébraïque. C'était un plaisir pour moi de faire cette traversée avec vous. J'espère que ça vous donne envie d'approfondir vos connaissances de la Bible, de relire plus en détail tel ou tel livre. Et évidemment, ce serait intéressant de reprendre les livres les uns après les autres, de les étudier en détail, mais on a toute la vie pour ça. Voilà. Merci beaucoup.